Bon, hey, notre invité, il est là. Je voulais l'avoir. Vincent Breton, des Viandes du Breton. Comment allez-vous?
Ça va bien, moi.
Comment va votre relation avec l'UPA?
Ben, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de relations avec.
C'est parce que là, je lis, vous êtes sur X, hein? Vous êtes très, très divertissant aussi. Et là, vous dites, avec les tarifs, l'UPA, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu se faire aider?
Ben, c'est un peu. Je pense que vous référez peut-être au tweet que j'ai fait sur les contre-tarifs, là.
Oui, exact.
Dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est on entend. Puis il y a plusieurs industries, dont l'industrie agricole, qui exporte beaucoup aux États-Unis. Donc, on a besoin du marché américain. Ça, c'est une première des choses. La deuxième affaire, c'est que quand on dit que, ou on publicise que, ah, bon, on est content que le gouvernement canadien se tienne debout puis mette des contre-tarifs, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que les contre-tarifs, c'est les entreprises canadiennes, puis c'est les consommateurs d'ici qui la payent.
Oui, mais ça, on explique ça. Nous, on l'explique, mais pas grand monde qui l'explique. Là, vous êtes un des seuls hommes d'affaires qui se lève et qui explique ça un peu aux gens.
T'sais, je vais vous donner un exemple. Dans notre cas, à nous, on n'a pas de tarif parce que notre produit fait partie de l'entente là, de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Mais actuellement, là, ben, là, on est à travailler pour contrer l'impact des contre-tarifs sur les produits d'emballage, les plastiques, et etc. Donc, c'est un peu ça. Mon tweet visait peut-être juste à sensibiliser des gens qui disent un peu n'importe quoi. Là.
Ça va être quoi les factures pour vous? Là? Je sais que vous avez mis des exemples. C'est quand même des gros montants.
Ouais, ça, c'est une chose qui est différente. C'est que du Breton, au Québec, l'agriculture, les gens ne le savent pas. Il y en a qui sont un peu au courant. Puis on parle souvent de la gestion de l'offre, mais il y a une loi qui s'appelle la mise en marché collective. C'est quoi la mise en marché collective? C'est que dans le passé, tous les producteurs agricoles ont abandonné le droit de propriété sur leurs produits et ils confient à leur syndicat, c'est-à-dire l'UPA et ses fédérations spécialisées, là, les éleveurs de porc du Québec, les producteurs de grains, etc. Il y en a 16, 17, 18 fédérations spécialisées regroupées sous l'UPA. Et c'est eux qui s'occupent de faire la mise en marché des produits. C'est-à-dire que moi, comme producteur du Breton à des fermes, quand je vends à mon unité de transformation, je dois passer par le syndicat. Nous, on a contesté ces frais, ces cotisations-là abusives. On est allé jusqu'en cour, on est passé à la régie des marchés agricoles, et puis on est allé jusqu'en cour supérieure, et là, on a perdu notre cause. Donc, on va devoir rembourser ça va être des millions en cotisation. Là, j'ai posté les premières factures de plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais tu sais, les gens ne savent pas à quel point le modèle québécois en agriculture, là, c'est énormément d'argent, c'est énormément de salaire. C'est que ce soit le syndicalisme agricole, que ce soit... ensuite de ça, toute l'administration des programmes, c'est des milliers d'emplois, là, c'est des centaines de millions en masse salariale. C'est aussi des coûts qui se retrouvent à l'épicerie dans les produits que vous consommez ou à travers vos impôts, à travers des programmes. Et donc, c'est un peu contre ça que que moi j'en ai ou que notre entreprise en a. On n'a pas besoin de ça. On est capable de fonctionner sans la mise en marché collective comme entreprise. Et puis là, il me reste en cours une demande d'exemption pour être exempté de ce système-là. Mais il faut savoir que le lobby agricole au Québec et au Canada est excessivement puissant, donc ça ne sera pas facile.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que toute cette paperasserie-là, toute cette espèce de fonctionnalisation, ben ça fait en sorte que ça a un coût à l'épicerie, puis on se demande pourquoi la bouffe monte à chaque fois. Ben il y a un impact direct là, sur la facture.
Oui, puis je pense que de publier le genre de facture que ça peut représenter, hein, parce que chaque fermier, chaque transformateur, à chaque kilo ou à chaque produit qu'il envoie, c'est des petites sommes. Mais dans notre cas à nous, comme on a contesté ces sommes-là, et que là, on a à les payer en même temps, les gens vont voir l'ampleur. C'est des centaines de millions de dollars que les consommateurs payent en trop dans les produits qu'ils achètent à l'épicerie ou à travers leurs impôts dans des programmes de toutes sortes.
Vous avez aussi parlé sur X, je trouve ça intéressant, tu sais, l'idée de Québec solidaire, là, d'avoir des épiceries publiques. On parlait d'une somme de 100 millions investis en partant, plus 80 millions par année. Et ça a été applaudi, ça, notamment par les gens de l'UPA. Comment? C'est quand même,
bon,
quand même bizarre, ça.
Ben, le syndicalisme ou l'UPA, on sait que Québec solidaire, même si je me souviens, là, a déjà eu des idées concernant, par exemple, ou questionner des fois certains droits de propriété des terres agricoles ou Donc, moi, je vous dirais, écoutez...
Oui, bien, ils ont voulu nationaliser des fermes, là, à la dernière élection. Là.
Peut-être, mais écoutez, ce type de système-là, je ne sais pas si ça vaut la peine d'en parler, parce que ça a été un échec partout dans le monde, j'ai un petit peu de misère à comprendre pourquoi c'est des idées ici, mais...
Oui, mais les gens de l'UPA ont l'air à vouloir pousser pour ça, là.
L'UPA, là, c'est la plus grande, c'est une grande multinationale, l'UPA. C'est comme un État dans l'État. Ils sont partout. Ils sont, bien sûr, au niveau politique. Ils viennent de faire élire des candidats.
Ouais.
Ils sont au niveau municipal. Ils ont des anciens employés dans les tribunaux. Ils sont impliqués partout. C'est 16-18 fédérations spécialisées là, plus l'UPA. Écoutez, ils ont un budget de lobby, d'activités promotionnelles, de publicité de 70 millions par année, année après année. Puis si on se souvient, là, si je me trompe pas, je pense que les gens trouvaient ça scandaleux, là, ce que le gouvernement du Québec avait investi lors de la pandémie là, en publicité, je pense que c'était 150 millions. Mais dites-vous que l'UPA, pour démontrer qu'ils sont... qu'on a un bon système, met 70 millions par année en activité, promotion, publicité, lobby de toutes sortes. Là.
Fait que beaucoup de publicité pour des médias, hein, notamment. Là. On comprend, ouais, les producteurs de lait. On dit que les producteurs de lait mettent 200 millions par année dans tout ce qui est publicité, marketing. Si l'UPA en met pas mal, j'imagine que le poids doit être intéressant là, quand on veut faire passer un message.
Oui, c'est sûr. Puis ça, je pense, ça avait été publié par le Food Professor de toute la fédération,
oui.
Les différentes fédérations canadiennes. D'ailleurs, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est de mettre le poids économique de ces 16, 17, 18 fédérations-là ajoutées à l'IPA. Je pense que les gens feront un saut sur l'impact et la puissance qu'ils ont. Là.
Bien, c'est souvent, on se pose la question. Comment vous la trouvez, la relation aussi avec les... tu sais, on voit les producteurs de lait qui ont une entrée à Ottawa de façon, avec la gestion de l'offre, de façon magistrale. Mais les producteurs de porc, les producteurs de bovins, ça peut être aussi... ça vient en contradiction un peu avec vous. Là. On entend juste parler des producteurs de lait dans cette histoire des tarifs, mais vous êtes quand même impacté dans tout ça.
Un peu différent. Hein? Le porc et le bœuf circulent librement.
Oui, c'est à la bourse, là. Hein? C'est le prix...
Ouais, non, mais ils circulent librement. Il n'y a pas de tarif entre le Canada et les États-Unis. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et ça, c'est ce qui fait que c'est différent. Parce que les politiciens, d'ailleurs, pour vous montrer la puissance de l'UPA puis de ces fédérations-là, c'est qu'ils réussissent à mettre dans la bouche des politiciens qu'il faut absolument protéger la gestion de l'offre. Donc, le porc et le bœuf n'est pas sous gestion de l'offre. Donc, c'est là la différence. Mais, curieusement, au Québec, on a quand même... les produits sont quand même mis en marché par le syndicat avec la loi sur la mise en marché collective, parce qu'on comprend, hein, la gestion de l'offre, pour que ça fonctionne, un, il faut centraliser l'offre, et deuxième chose, il faut mettre des tarifs importants. Cette deuxième partie-là, dans le cas du porc ou du bœuf, ça n'existe pas.
Ben, les prix sont fixés à quoi? À la bourse de Chicago, c'est ça? Dans le cas
non,
de,
ben, dans notre cas, à nous, je vous dis, c'est l'offre et la demande. Pas nécessairement la bourse, mais... c'est sûr que le marché américain là, a beaucoup d'influence sur la fixation des prix.
Ouais.
Dans notre cas, à nous, on est uniquement dans les produits niches. On a abandonné la transformation de l'élevage et la transformation de produits commodités là, élevés en cage avec antibiotiques. On a abandonné ça en 2019 complètement. Donc maintenant, on est uniquement dans les produits là, certifiés biologiques, certifiés bien-être animal, puis élevés sans antibiotiques.
Est-ce qu'on a fait peur aux gens, M. Breton, avec la fameuse sécurité alimentaire? On sait que François Legault en a parlé au sortir de la pandémie. Il y avait manqué de bouffe pendant pas longtemps. Là, quelques jours, on voyait les comptoirs un peu dégarnis dans les épiceries, puis c'est devenu comme un thème. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, que ce soit avec vous, que ce soit avec Sylvain Charlebois ou d'autres, on reçoit toujours des messages ou des gens qui commencent à dire « Ouais, mais OK, vous avez peut-être raison, mais quand même, tout le système actuel, là, ça protège notre sécurité alimentaire. »
Bien, tu sais, la preuve, dans le 70 millions qui est investi par l'UPA et qui est répété, la sécurité alimentaire est répétée. C'est comme la politique bioalimentaire du MAPAC, un de ses premiers objectifs, il parle de sécurité alimentaire, mais dans le fond, ils mettent pas vraiment d'argent parce que tout l'argent est commis dans un programme. Ça fait que c'était des beaux slogans, mais il n'y a pas vraiment, ça résonne pas réellement en des actions. La sécurité alimentaire, je vous dirais que tous les gouvernements investissent en agriculture pour, oui, avoir un minimum, mais sais, comment qu'on parlera de sécurité? Si on veut de la diversité au Québec avec les hivers et le climat qu'on a, ben faire des affaires avec les autres pays ou avec les autres juridictions, on n'aura pas le choix. Hein? Tu sais, on ne poussera pas d'éranges, ni de bananes, ni de fruits exotiques au Québec puis au Canada. Donc, c'est un concept qu'on veut développer, l'industrie agricole, l'industrie alimentaire, pour des raisons de sécurité. OK. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas faire au Québec, là, puis il y a des avantages importants juste notre hiver. Là, on peut passer de la production en serre, qu'est-ce que ça peut coûter avec le type avec les hivers qu'on a.
L'électricité.
Donc, c'est un concept qui est un peu, je dirais, galvaudé.
Du breton, viande du breton, vous en allez où dans les prochaines années? Vous avez vraiment un produit niche, l'exportation?
Ben, nous, là, notre priorité, c'est qu'on est une entreprise qui, au lieu d'être concentrée sur nos. Comment on dirait ça, sur le système, on essaie d'être concentré sur les clients. On a une excellente clientèle. On a des clients flagship comme les gens comme Whole Foods, comme Chipotle Mexican Grill, comme IKEA. Les gens qui consomment les boulettes, fameuses boulettes IKEA en Amérique du Nord, il y a du port du breton là-dedans, partout en Amérique du Nord. Donc, on suit l'évolution de notre clientèle, de ce qu'on nous demande. Récemment, on ajoute sur nos étiquetages actuellement la notion que nos produits sont garantis sans clonage, sans édition, sans gene editing, pour utiliser un mot français, là, ou sans édition de gène. Donc, on fait la promotion d'une agriculture qui est différente, qui s'adresse à une certaine clientèle. On est conscient que ça demeure un produit niche, mais c'est ce qu'on fait la promotion. On a commencé également à mettre nos produits en marché en Europe l'été dernier. Les gens vont dire, bon, c'est ça, il faut diversifier nos marchés. Oui, mais c'est de longue haleine. Hein? C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années pour faire bouger un peu les marchés, mais il reste que le marché américain est encore un marché important pour nous, puis il est notre marché flagship, là, puis c'est un marché qu'on continue de développer de manière importante.
L'Asie, là-dedans?
La notion de bien-être animal, puis ce que nous on fait, est un peu moins présent en Asie, c'est culturellement. Ici en Amérique du Nord, puis en Europe, les notions, les gens veulent de plus en plus que les animaux soient bien traités, hein, que les animaux soient pas en cage. À titre d'exemple, qu'il y ait plus d'espace, qu'il y ait de l'accès extérieur, qu'on ne fasse pas d'altération physique. En Asie, cet aspect-là est moins présent.
On a vu les prix de la viande monter beaucoup. Ça a favorisé peut-être l'achat de porc. Ça, dans les prochaines années, c'est-tu aussi quelque chose qui...
Savez-vous, les gens disent ça, mais pas tant que ça.
Non?
La consommation au Canada du porc est stable, ou des fois un petit peu en hausse, des fois un petit peu en décroissance. Étrangement, le poulet continue de croître, mais il n'y a pas eu tant de croissance dans le porc. Ça serait intéressant parce que le porc est une protéine de qualité qui
ben oui, ben moi j'en mange plus, en tout cas.
Comparativement au bœuf, là. Puis des fois, les choses qu'on dit, c'est un burger de bœuf, du porc bio, c'est moins cher que du bœuf régulier. Hein, ça fait que c'est vraiment une belle protéine, une protéine de qualité. Mais peut-être qu'il y a un peu d'ouvrage au niveau d'affaires, au niveau de l'aspect pratique et des produits transformés de qualité qui a peut-être été moins fait dans notre industrie VS le poulet. Mais il y a clairement un défi là pour les producteurs et les transformateurs comme nous. Là.
Et le Québec là-dedans, on tire-tu notre épingle du jeu ou ça décline?
Mais dans la consommation ou en.
Ben, dans la production
économique,
là,
pour ma part.
Oui, la filière.
Moi, j'aime à dire qu'il n'existe pas une filière de porc au Québec, il en existe plusieurs. Hein. Puis, contrairement à ce qui va être véhiculé, par exemple, par les éleveurs de porc du Québec, le syndicat des producteurs ou l'UPA, c'est un marché au Québec qui s'est énormément concentré. Donc, tous nos règlements, là, notre bureaucratie n'a pas réussi à freiner la concentration. Donc, Olimel, maintenant, avec les acquisitions, a 70% du marché. Nous, on s'adresse à un marché niche, puis quelques autres joueurs. On est encore centré sur l'exportation, mais l'industrie de commodité, pas l'industrie de niche, parce que nous, on n'a plus d'astron, on ne participe pas au programme de subvention là, qui existe, mais est encore dépendante de beaucoup de programmes gouvernementaux, comme l'ASRA, par exemple, l'assurance de stabilisation des produits agricoles. Donc, je comprends qu'il y a eu des efforts importants de redressement de l'OMIL au cours des dernières années, mais
c'est pas facile. C'est pas facile pour l'OMIL.
Je sais pas. Ben, je pense que les derniers résultats, c'était quand même correct, mais il faut pas oublier que durant 5 années, Olimel et Solio ont eu là, près de 750 milliards d'aide financière.
Ben oui, c'est ça. De la COVID,
c'est ça. Ça fait que ça a été... dans le fond, que on pourrait dire... gentiment que ça vous appartient tous un peu.
Voilà. Vincent Breton du Breton, merci beaucoup des viandes du Breton.
Merci beaucoup.
Plaisir de se reparler. En tout cas, vous n'avez pas peur de jaser. Ça, c'est à tout à votre honneur. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Voilà. Ouais. On l'a entendu là.
Hein? Ben, écoute, moi, je suis quand même content qu'il n'y a plus juste le Food Professor qui a osé s'exprimer. Puis, tu sais, je comprends pourquoi il y en a peu qui le font. T'as-tu vu la merde qu'ils reçoivent?
T'as-tu vu l'armada? T'as 200 millions d'investissements dans les médias, dans le marketing, juste le lait. T'as les producteurs de pâte, t'as tout le monde. Fait que dès que tu sors du lot, ils t'attaquent.
Oui, et puis c'est comme aller dire que t'es tâté en 1920, là, la gestion de l'offre. Là. Puis le système agricole là, du Québec, tu le vois, là, les politiciens, là, ça se dépêche de sortir. Hey, il faut qu'ils nous disent qu'il est en faveur de la gestion de l'offre maintenant, sinon qu'il laisse sa place. Puis, c'est une profession de foi. Là.
Mais tu sais, hier, Sylvain nous a parlé. Là, à Ottawa, là, on a eu l'élection dans Chicoutimi.
Oui, de M. Gobeil.
M. Gobeil, il s'en va à Ottawa. Lui, il représente les producteurs de lait. Là.
Ben oui.
Lui, il arrive là-bas, tu as les producteurs de porc, tu as les producteurs de viande, mettons, de bovin.
Oui.
Puis là, eux autres, ils se disent, attends une minute, là, on met toute sa gestion de l'offre pour le lait. Nous autres, on existe aussi là, autour là, de la table. Là.
Exact.
On entend juste parler de la gestion de l'offre. Pourquoi? Mais... Ils disent des fois, on se pose des questions. Là. On jase, on avance, on construit l'avion ensemble. Là.
Ouais.
Posez-vous des questions.
Ça ressemble un peu à ça.
C'est un peu ça. Voilà.
Au retour, nos lignes ouvertes, on déborde.
François Charon.
François Charon, avant, t'as bien raison. Moi, j'étais trop pressé de parler au monde.
On jase la techno, on revient après la pause. Yes.
Couture dans le mid.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.